Bien, merci beaucoup. Alors nous allons revenir un peu, enfin, on n'a pas quitté beaucoup la Terre d'ailleurs, l'exposé de Claude Demergue collait à la réalité, mais ça va être une autre forme de réalité que je vais essayer de vous montrer. Alors j'ai laissé à Claude Demergue le soin de projeter cette magnifique photo du cirque qui est si spectaculaire, et ce que je vous montre là, c'est une maquette qui se trouve dans le petit bâtiment destiné aux visiteurs. Et cette maquette met en évidence ce qui a été arraché au sol, cette espèce d'immense loupe qui fait plusieurs kilomètres de dimension. Alors, quelles sont les données du problème pour un ingénieur de façon extrêmement, comment dirais-je, pratique, pragmatique? 200 ans d'exploitation, 90 millions de mètres cubes extraits ou déplacés de plusieurs kilomètres, ça représente 450 000 mètres cubes par an en moyenne, ce qui veut dire que, comme d'une année sur l'autre, il y a des variations très fortes, des pointes annuelles de l'ordre de 1 million de mètres cubes, c'est-à-dire 1 hectomètre cube, c'est-à-dire un cube de 100 mètres de côté. Alors, quels sont les différents modes de transport ou de déplacement mis en œuvre utilisant les forces hydrauliques? On va s'apercevoir qu'en fait, les choses varient de façon insensible, et en particulier, ce qui est fascinant pour un ingénieur, c'est de voir la maîtrise quand même et le culot quand il est romain dans la conduite d'exploitation, et de s'apercevoir que c'est probablement par un suivi, une observation des phénomènes d'érosion de l'eau que petit à petit, ils ont poussé à l'extrême l'utilisation de certaines techniques. Alors, il y a le charriage, saltation et suspension. Il y aura un petit croquis qui vous expliquera un peu, pour ceux qui ne sont pas habitués avec les phénomènes d'utilisation de l'eau, quels sont pour le triage et le lavage des matériaux aurifères. Il y a le charriage pour le déplacement des stériles les moins encombrants. Il y a des glissements successifs, des accumulations de stériles qui constituent des barrages et qu'on détruit par chasse, ce que les anglo-américains appellent wishing ou booming. Et puis, il y a l'abattage à la fin, l'abattage hydraulique des morts terrains et l'évacuation de ceux-ci par des phénomènes de lave torrentielle. Je vous dirai un peu ce que c'est que les phénomènes de lave torrentielle qui ont comme avantage une économie d'eau absolument considérable. D'ailleurs, il y a une variation de l'utilisation. Alors, on peut faire une synthèse pour montrer justement souvent ce qui se passe dans les phénomènes physiques, que les choses sont insensibles. Alors, je ne vais pas commenter en détail cette figure, mais elle montre dans la partie haute que depuis la rupture, on a des mouvements lents et des mouvements rapides, et puis des écoulements en suspension. Dans la partie basse, on retrouve la même chose, simplement le circuit. C'est pour des matériaux granulaires, c'est-à-dire sans cohésion, sans adhésion entre les particules. En haut, ce sont les matériaux cohésifs. Alors, la teneur en eau est croissante dans le sens de la droite vers la gauche. Et on a donc les transports solides en suspension sur la gauche, tandis que sur la droite de la stabilité, on passe à la rupture, avec des mouvements lents et des mouvements rapides. Les laves torrentielles se trouvent au milieu, on en parlera tout à l'heure. Alors, le déplacement en grande masse, comment ont-ils fait, justement? On reviendra sur la saltation et la suspension. Ils ont deux méthodes de travail qui sont non exclusives l'une de l'autre, mais qui ont été mises en œuvre l'une après l'autre, c'est ce que vous a dit Claude Demergue. La première, décrite par Pline, consistant à un abattage sans eau par sous-cavage, puis lavage des déblais obtenus, et transport par l'eau des stériles résultants. Et la seconde, que Pline n'a pas pu voir, consistant, parce qu'on va de plus en plus haut dans l'exploitation des terrains, la seconde que Pline n'a pu voir, qui consiste en un abattage des morts terrains par mise en pression avec de l'eau et lors de la rupture des masses, déplacement en grand glissement de la masse rompue par lave torrentielle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les consommations d'eau sont extrêmement faibles. Alors, voici le phénomène de charriage, c'est le 1. La saltation, c'est quand les particules commencent à être relativement légères, donc elles peuvent être entraînées par la vitesse du courant et sauter, comme le nom l'indique. Et puis, vous avez les phénomènes de suspension, quand les particules sont extrêmement fines, elles restent en suspension. Et que Pline, d'ailleurs, parle beaucoup de ces suspensions, il parle de ces ourium, oria, enfin. Et il explique que ça peut obstruer les canaux d'alimentation en eau, et je sais que nous, enfin par expérience, c'est la terreur des exploitants de canaux d'irrigation qui, si la vitesse n'est pas assez grande, il y a des dépôts, il faut les nettoyer en permanence. Alors, la consommation d'eau est maximale dans ces cas-là, c'est-à-dire que pour transporter un mètre cube de matériaux solides, il faut plutôt 100 mètres cubes d'eau. C'est par exemple dans les dragues suceuses qui draguent dans les sables, dans les estuaires de rivières, on récupère 10 mètres cubes de sable pour 100 mètres cubes d'eau utilisée. Là, c'est 10%. C'est presque bon. Et puis, vous avez les phénomènes de déplacement avec consommation moyenne d'eau, c'est-à-dire qu'on va utiliser quelques mètres cubes d'eau par mètre cube de matériaux transportés. Et ce sont les phénomènes de glissement et par érosion, c'est-à-dire qu'on peut avoir des espèces de barrages, c'est ce qui s'est passé. Et puis ces barrages, on va chercher à les rompre, on va mettre de l'eau derrière et s'arranger pour qu'il y ait les érosions de surface, on les fait submerger en amenant suffisamment d'eau. Ces phénomènes d'érosion de surface mettent en vitesse l'eau et on entraîne les matériaux. Et puis, vous avez les phénomènes de glissement, la masse déplacée par rupture du massif. Alors, c'est toute une technique d'habitude pour essayer d'avoir effectivement le déplacement maximum, mais ce sont des déplacements par à-coup, des mises en vitesse qui sont par à-coup. C'est en fonction de l'expérience des exploitants qu'on peut avoir l'efficacité de ce système-là, mais c'est celui qui était utilisé pour déplacer les produits des stériles de lavage. Alors, la localisation dans le temps et dans l'espace des modes d'exploitation en grande masse. On a donc le sens de l'exploitation, on s'enfonce dans la montagne, et au début, on a des matériaux directement orifères, avec les teneurs relativement faibles que nous indiquait Claude Domergue, et on va faire du battage par soucavage, je vais revenir. Le profil initial, on essaye de le reconstituer comme on peut. Une chose importante, il y a eu des études, tout ce que je vous dis s'appuie quand même sur un certain nombre de recherches. Ça ne m'est pas sorti de la tête tout seul. Et au-dessus, on a les terrains de Las Medulas, qui sont des morts terrains, qui donc ont été abattus, eux, avec le désir de les chasser le plus vite possible. Qu'il n'y a rien d'autre, la formation Santaya et donc la formation aurifère. Alors, l'abattage par soucavage, ça consiste à commenter la figure que vous a déjà projetée Claude Domergue, qui s'appuie sur des techniques habituelles. Donc, j'ai lu sous la direction de Claude Domergue le texte de Pline et j'ai reconstitué les arcs, les piliers, et vous avez donc J'ai la mienne, mais je l'ai oubliée. J'arrive. Oui, alors quand on abat les piliers, vous avez donc des phénomènes d'éboulement qui vont en augmentant avec des risques considérables. Et vous avez ce que j'ai mis en ligne, ce sont tout simplement les lignes de force, c'est-à-dire que la gravité, le poids des terrains, va se reporter sur le pied jusqu'au moment où les déplacements vont être tels qu'ils vont provoquer une fissure, qui est très très connue dans notre métier. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, quand j'ai discuté avec les spécialistes chez nous, c'est la cohérence du texte de Pline au point de vue technique était absolument parfaite. Donc vous avez toujours, que ce soit dans les sols ou dans les roches, des phénomènes de fissures qui s'appliquent, avec la seule différence que dans les roches, mais ici on a un terrain intermédiaire qui est entre les sols et les roches. L'avantage de ce terrain, c'est que c'est un terrain qui est relativement déformable et que par conséquent, le délai entre la rupture qui vient ici s'étaler et puis l'apparition des premières fissures était plus grande. On devait risquer un peu moins la vie des gens, mais cette méthode de soucavage qui a été utilisée par la suite, d'ailleurs, est rigoureusement interdite par les règlements miniers actuellement. C'est hors de question de s'amuser à ce genre de plaisanterie. Donc vous avez écoulement de la masse. Et l'écoulement de la masse, ce qui est intéressant, c'est que comme on prend des assez grandes hauteurs, vous avez rupture, vous avez broyage de la masse, déjà une bonne préparation au traitement qui va être suivi, qui va être donc un traitement par lavage, qui demande de l'eau, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Alors ça, c'était donc la première solution de déplacement en grande masse par la voie sèche, qui probablement a dû s'appliquer, mais ça je laisse à Claude le soin de, d'étayer la, l'argumentation qui devait s'appliquer donc aux terrains aurifères. Et puis les morts terrains, il fallait donc s'en débarrasser et les envoyer le plus loin possible. D'où les phénomènes. Alors ça, c'est les hypothèses de mise en pression au moyen de galeries que j'ai résumées ici par ce dessin-là. Donc, nous avons toujours une falaise. Là, j'ai dû dessiner ça pour 80 mètres de hauteur parce que ça correspond sensiblement aux falaises qui restent dans le cirque 1 en particulier. On amène de l'eau par des galeries. Au préalable, on a truffé la montagne de puits verticaux, les galeries horizontales ne servant que pour des raisons d'exploitation et de fabrication des puits. Et à ce moment-là, on a donc une alimentation par infiltration dans toute la masse du terrain ici. Et alors on peut faire des calculs, d'ailleurs ce dessin est le résultat d'un petit calcul idiot, comme on dit dans notre métier, c'est-à-dire qui est le plus simple possible. Et cette ligne de rupture correspond exactement à ce qui apparaissait par le calcul. Quand on arrive à une saturation complète, les propriétés du matériau sont diminuées et à ce moment-là, il s'écroule sous son propre poids, en prenant d'ailleurs de l'énergie cinétique parce que le centre de gravité se trouve par là, puis on va la ramener plus bas. Et donc, ce qui était à ce moment-là, on a les phénomènes de lave torrentielle, c'est-à-dire que ce matériau peut partir, et je vais vous montrer quelques photos, peut pas partir à grande vitesse, c'est-à-dire 10, 15, 20 km à l'heure, et va aller à 3, 4, 5 km de distance. Parce que, et ce qui correspond au fameux cône de déjection, enfin, une partie du cône de déjection. Il faut bien voir que ce cône de déjection est l'intégrale d'un certain nombre d'opérations dans lesquelles il y a les lavages, les traitements des matériaux aurifères, les déplacements que je vous ai montrés par glissement successif, par à-coup, si j'ose dire, et puis les phénomènes de lave torrentielle, qui sont alors actuellement extrêmement étudiés parce qu'ils sont très ravageurs, ce sont des phénomènes qui se produisent en montagne et dont les conséquences sont extrêmement dangereuses. Alors, pour étudier les phénomènes de lave torrentielle qui ont fait l'objet de programmes de recherche coordonnés au niveau européen, il y a des stations d'essai qui ont été mises au point pour refaire ces phénomènes. Alors, les phénomènes de lave torrentielle, malheureusement, ces phénomènes de lave torrentielle ont une propriété, c'est qu'ils demandent très peu de matériaux, très peu d'eau. Je m'explique. Je vous ai parlé de 100 mètres cubes pour un mètre cube de déblai qui est déplacé par saltation ou charriage. Pour les lavages des déblais aurifères, les consommations d'eau sont également considérables. On avait quelques mètres cubes par mètre cube pour quand on essayait de faire ça par glissement, mais ça n'allait pas très loin, il fallait recommencer. Et donc à l'intégrale de l'utilisation de l'eau était quand même assez considérable. Dans les phénomènes de lave torrentielle, qui sont des phénomènes physiques tout à fait spéciaux, la quantité d'eau, je ne veux pas dire qu'elle est nulle, mais elle est de l'ordre de 10 mètres cubes pour 100 mètres cubes. C'est-à-dire que les matériaux sont, en fait, vont se présenter dans leur déplacement sous forme liquide, ça va couler, mais en fait, il y a très très peu d'eau. C'est un phénomène extrêmement particulier et qui a donc pour intérêt une économie d'eau considérable, ce qui était de la part de l'utilisation des Romains pour l'abattage de leur terrain tout à fait remarquable. Alors le Kazakhstan, la photo que vous voyez ici, ça se passe donc au Kazakhstan, c'est une station d'essai qui a été ouverte en 1972, le 12 septembre 1991, pour 22 mètres cubes de débit d'eau, mètres cubes seconde, le débit d'écoulement des laves torrentielles était de 200 mètres cubes seconde. Donc vous voyez là une photo, hein, vous avez 200 mètres cubes seconde. Alors pour vous donner une idée, 200 mètres cubes seconde, la Seine à l'étiage en été doit charrier environ 20 mètres cubes seconde. 200 mètres cubes seconde, c'est déjà la Seine qui coule pas mal après une pluie au printemps ou à l'automne. Le débit donc du 200 mètres cubes, la vitesse était de l'ordre maximum de 29 km heure, c'est considérable, et le transport s'est fait sur une distance, on est parti d'un point A, et on est arrivé à 2,5 à 3,5 km de distance. Et les blocs maximum qui étaient charriés par cet écoulement, que vous voyez, il y a donc l'individu. Les blocs maximum étaient de 2 mètres de diamètre. Et le maximum, alors, lors des essais, a été de 430 mètres cubes seconde et une vitesse de 11 mètres cubes seconde, c'est-à-dire 40 km/h. Alors, ce qui vous explique qu'on a besoin de très très peu d'eau. Il suffit de saturer le massif, ce que je vous ai montré tout à l'heure comme coupe de terrain. Et le volume intéressé était de l'ordre de 100 000 m3. Il suffisait de 10 000 m3 d'eau pour saturer le terrain et le faire partir à toute vitesse. Alors la deuxième chose, c'est mon échec une fois de plus. Normalement, il y a une vidéo, mais elle ne va pas marcher. C'est une station d'essai en Suisse sur un petit vallon qui se jette dans le Rhône du côté de Sion. Et là, c'est à peu près le même phénomène qui se produit. On a c'est le jour où la photo a été prise, qui faisait partie du programme européen coordonné. Là, on a fait passer 35 000 m3, c'est-à-dire le tiers des 100 000 m3 dont je vous ai montré la coupe tout à l'heure, avec un débit maximal de 125 m3/s. L'épaisseur maximale du flot a été 3 mètres, et les blocs les plus importants faisaient 2 mètres de diamètre. Et la quantité d'eau pour ça était de l'ordre de 8 à 10 m3 pour 100 m3 de matériaux. C'était donc, et on s'aperçoit que de façon, en quelque sorte, tout à fait pragmatique, par l'observation de la nature, sur effectivement des décennies, les Romains sont arrivés à une maîtrise absolument extraordinaire, parce que ensuite, il s'agit de faire une enquête de type policier, et puis il faut se méfier de son intime conviction et bien respecter la réalité. Vous avez donc les zones qui ont généré tous ces... Je parle toujours de l'abattage par mise en pression avec déplacement par lave torrentielle du circuit 1 sur la partie supérieure. Vous avez la zone de génération des remblais. Et puis, il y a des espèces de canaux, des canaux, des d'écoulement dont on peut... Vérifier les pentes nécessaires, parce que effectivement tout ça correspond à des critères techniques très, très précis. Ça a été étudié maintenant, on en a une très grosse maîtrise. Il y a non seulement les Européens qui s'en sont occupés de façon extrêmement méthodique, mais également les Japonais. Et on a vérifié que les conditions de pente de ces espèces de canaux de sortie de cirque, à partir de la sortie du cirque, étaient compatibles avec les hypothèses de l'utilisation par les Romains de lave torrentielle qu'ils ont fait de façon tout à fait empirique. Mais enfin, le résultat est là. Et parmi les innombrables preuves que l'on trouve, on trouve par exemple à 4 km de la distance du cirque 1, ou 5 km, ce bloc que donc vous pouvez avoir la dimension, dont il est impossible pour des raisons, quand on étudie le problème, qu'il puisse se trouver là, autrement que transporté par des écoulements de type de lave torrentielle. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir été suffisamment clair, mais enfin, c'est pas sur le sujet.
Vas-y, si tu veux. Bien, nous arrivons à la conclusion de cet exposé. Nous allons conclure avec Pline, avec un commentaire de ce dernier paragraphe. Cette conclusion concernera la production. Alors, nous avons vu que dans l'hypothèse classique de l'interprétation géologique de Las Medulas, nous avons des épaisseurs d'alluvions stériles dont il faut se débarrasser avant d'exploiter la zone riche. Je vous rappelle, 300 mg d'or au maximum par mètre cube. Alors, la conclusion, c'est celle que vous avez ici, donc l'or obtenu par Arrugia, ce système, cette technique que vous venez de suivre, n'est pas fondu, oui, c'est de l'or comme de l'or dans les sables de rivière, n'est-ce pas? Les paillettes sont là, telles quelles. On n'a pas besoin de traitement métallurgique lorsque ça arrive, comme lorsque ça arrive dans l'exploitation des mines souterraines. Donc, selon certains, ça pose un problème, parce que selon certains, Pline était chef des services financiers de la province d'Espagne citérière, les mines dépendaient de lui. Pourquoi n'a-t-il pas donné ses propres chiffres, puisqu'il devait les connaître, selon certains, selon, je ne sais pas, là c'est un peu mystérieux. L'Asturie, la Galice et la Lusitanie produisent de cette façon chaque année 20 000 livres d'or, la plus grande partie provenant de l'Asturie, je commentais cela tout à l'heure, nulle part ailleurs dans le monde, etc. La grandiloquence de Pline habituelle. Alors 20 000 livres, ça fait un peu plus de 6 tonnes et demie d'or par an. Si on multiplie, bon, peut-être pas par 200 années, mais parce que la production a dû fluctuer, mais je ne sais pas, mettons par 100, ça ferait 650 tonnes d'or tout au long de la période d'exploitation. Or, en fait, selon les évaluations les plus récentes, les géologues qui ont travaillé sur ces gisements, qui ont testé les différents niveaux, le nord-ouest hispanique aurait fourni à l'époque romaine un total de 190 tonnes d'or. C'est donc assez peu par rapport aux chiffres que donne Pline. Là, c'est la production annuelle. Donc, à peine 5 proviendraient de Las Medulas. La suite. Alors, ça laisse rêveur. Le sens commun, comment ces travaux? Vous l'avez vu, Pline les a décrits, il y a des masses de gens, pendant 2 siècles, un énorme chantier, des kilomètres, des centaines de kilomètres d'aqueducs, des gens qui ont travaillé, qui sont morts, près de 100 millions de mètres cubes de matériaux déplacés, des masses de travailleurs, bien entendu, je n'ai pas parlé de cet aspect. Bref, opéra gigantum, des travaux gigantesques. Pour 5 tonnes d'or, à peine, ça. Le sens commun ne peut pas accepter cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? La suite, vas-y. L'hypothèse géologique que j'appelle iconoclaste. Il y a une dizaine d'années, des jeunes géologues du Galice, dans une revue locale, Geogaceta, ont fait paraître 2 articles successifs, dans lesquels l'interprétation du site est assez différente. Au lieu de cette masse tertiaire arrivant par un canal de déjection avec un cône de déjection qui se serait formé ici, les dépôts les plus gros, avec les galets les plus gros, transportés directement depuis les zones de charriage qui se situent à 50, 80 km à l'est, il y aurait à Las Medulas un certain nombre de terrasses, du type terrasse alluviale, les terrasses que nous avons dans les rivières actuellement, aujourd'hui, que nous connaissons, qui se sont formées au cours des époques géologiques les plus récentes, première, deuxième, troisième terrasse, mais des terrasses de 100 mètres d'épaisseur, on n'en connaît pas. Or là, ce seraient des terrasses de 100 mètres d'épaisseur. On ne voit pas les limites entre ces terrasses. Ici, il y en a une qui est nette, mais c'est une faille qui est bien connue, qui a transporté, qui a surélevé les dépôts ici qui ont été exploités par les petits cirques. Cette explication qui voudrait voir dans différents chenaux des dépôts aurifères, toute cette théorie qui serait séduisante, pour l'instant, ne repose sur rien. Il n'y a pas d'analyse des teneurs en or. La suite. Il n'y a plus rien? Ah bon? Voilà. Alors oui, bon, j'aurais dû supprimer celle d'avant. Mais enfin, c'est pas grave. Alors voici ce nouveau schéma, avec des terrasses successives très importantes, dont on a les restes des dernières, la 7e terrasse ici, qui sont de véritables terrasses alluviales. Ici, celles qui ont disparu, c'est In Plano, qu'on a vu tout à l'heure, avec la zone la plus riche, ici. Et alors, on supposerait qu'ici, il y a des passés beaucoup plus conglomératiques, donc supposés plus riches en or, dans des paléochenaux, donc toute la masse aurait été exploitable. Alors, il y a deux objections qu'on peut faire à cette hypothèse. Un, la colonne stratigraphique classique, c'est la même que celle que vous avez vue tout à l'heure en couleur, mais ici, les teneurs sont aux endroits où ont été faits les prélèvements, les teneurs sont indiquées. Vous voyez, des petites barres, là, c'est 300 mg. Là, vous voyez, c'est vrai qu'il y a un peu d'or dans les niveaux de la formation Médoulas et dans la première partie, dans les niveaux distaux de la formation Santalia. Vous les voyez ici. Mais nous avons considéré que ces teneurs étaient trop minces, trop petites, pour justifier un travail de lavage. D'où l'hypothèse. Tout ceci a été abattu et transporté directement sans être lavé. Pline confond un peu les deux fonctions, l'eau pour laver ses décombres, mais l'eau aussi pour évacuer les déblais, ce qu'il aborde dans la dernière partie. Et deuxièmement, il faudrait prouver la richesse de ces niveaux, de ces terrasses, à tous les niveaux, sur 100 mètres de hauteur, et ça, ça n'a pas été fait. Alors évidemment, quand vous voyez ces aiguilles aiguës, comme vous les avez vues dans le cirque, il faut aller se balader sur le flanc de ces aiguilles pour faire des prélèvements, pas faire 10 grammes, il faut prendre 50 kg ou 100 kg ou 1 mètre cube. Bon, c'est pas facile. Mais pour prouver la nouvelle théorie qui alors justifierait tous ces travaux, il n'y aurait pas eu d'abattage et de transport des stériles sans lavage, comme je l'ai avancé tout à l'heure, tout aurait été effectivement effondré et lavé. Alors que dans notre théorie, une partie des alluvions considérées comme stériles sont évacuées sans autre forme de procès. Donc il faudrait prouver que cette richesse existe, et pour l'instant, on n'a aucune information là-dessus. Donc moi, j'en reste à l'hypothèse classique, un dépôt alluvial d'âge miocène dans un environnement de cône de déjection, des teneurs en or très faibles, les plus élevés, quelques centaines de milligrammes se trouvant à la base du dépôt, sous une couverture stérile pouvant mesurer 100 mètres d'épaisseur dont il faut se débarrasser pour atteindre l'or. Voilà l'interprétation qu'à l'heure actuelle, on peut faire, je crois, honnêtement, de ce texte de Pline et du site qui l'illustre le mieux, Las Médoulas. J'ai terminé.
Bien, merci beaucoup à nos deux orateurs qui nous ont présenté l'état des recherches sur ce site formidable, directement en rapport avec notre thème, puisqu'on voit à quel point les anciens ont mis au point et développé ces techniques d'utilisation de l'énergie hydraulique. Et évidemment, cet exposé suscite un certain nombre de questions. J'en ai listé un certain nombre. Est-ce que, si j'ai bien compris, dès Pline, donc dès le moment où on a le texte, on utilise déjà le système des laves torrentielles pour évacuer les stériles. Ce n'est qu'après qu'on utilise l'eau pour abattre, mais déjà dès Pline, on évacue les parties hautes.
On peut venir là-bas ?
Oui, bien sûr. Oui. De la formation Las Médoulas pour évacuer les stériles. Sinon, on ne comprendrait pas comment le système marcherait.
C'est-à-dire que... Enfin, à mon avis, les voies du progrès technique sont impénétrables comme celles de Dieu. On ne sait pas très bien comment les Romains ont fait leur synthèse. Une chose certaine, c'est que l'expérience que j'ai d'avoir parcouru le monde, c'est que les gens qui sont, comment dirais-je, techniques empiriques s'appuient sur une observation de la nature extrêmement fine. Donc, ils avaient, avec le technique de Hushing et de Booming, quand ils avaient un gros tas, ils pouvaient les pousser. Et alors, je pense qu'ils ont dû probablement provoquer des laves torrentielles sans le faire exprès au début, mais ils ne l'ont pas utilisé de façon systématique avant les abattages en grand. Mais ils ont utilisé les techniques, comme je disais, de hushing et de booming. C'est-à-dire le petit dessin que je vous ai fait qui représentait un espèce de petit barrage d'amoncellement de matériaux sur lequel je fais passer de l'eau au-dessus et puis que je provoque un glissement à l'intérieur. Ils ont fait donc probablement pousser comme ça, de cette façon-là, et puis petit à petit, ils ont dû s'apercevoir de phénomènes beaucoup plus dans certaines conditions un peu différents, où ils utilisaient beaucoup moins d'eau, où les glissements allaient très loin. De toute façon, en matière de glissement statique, vous pouvez quand même avoir des déplacements de plusieurs centaines de mètres. Et ils ont dû petit à petit prendre conscience d'un certain nombre de phénomènes qui leur a permis de mieux maîtriser les choses. Parce qu'on peut très bien laver. Quand ils les abattaient à sec, ils ont ce gros tas de matériaux rompus, broyés au pied de la falaise. Donc ils vont le laver. Et les déchets qui restent, enfin les stériles qui restent, je vous dis, ils les poussent par les techniques de hushing et de booming, qui sont classiques d'ailleurs dans les exploitations minières. Ça n'est qu'après, je pense que petit à petit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein, c'est très long, c'est très mystérieux comme phénomène, au point de vue accumulation de l'expérience, transmission de l'expérience et formalisation de l'expérience.
Je peux intervenir ?
Hop.
Non, je l'ai pas. Ah si, c'est moi qui l'ai. Pardon. Oui. Bon, le problème, le texte de Pline n'est pas d'une clarté toujours évidente. Hein. L'ambiguïté poétique dans certains cas et qui provient de sa méthode d'exposition n'est pas toujours très claire. Bon, il dit clairement que les aqueducs, le réseau d'aqueducs, le réseau d'aqueducs est nécessaire pour laver cette ruine, c'est-à-dire les résultats de l'abattage, les déchets. D'un autre côté, cette eau sert aussi pour laver les niveaux aurifères. Alors là, je différerai peut-être du point de vue de Jean-Louis Borde. À l'époque de Pline, lorsque Pline visite le site, hein, on le voit, il y a les directeurs de la mine avec lui, là, son esclave et les tablettes, il chemine, il arrive, on lui montre les Montes, n'est-ce pas ? Mais l'exploitation est déjà commencée. Or, l'exploitation a commencé d'abord sur les niveaux riches, parce que ces niveaux riches n'étaient pas surmontés de cette masse de stériles, et ils avaient été emportés par une érosion naturelle. Donc, ce qu'on appelle ce que j'ai appelé le plat, que vous avez vu, qui est au-delà du cirque et des buttes résiduelles, là, il y avait, on lavait tout, parce qu'on était dans les niveaux riches. Mais au fur et à mesure qu'on s'avance vers l'est, les dépôts stériles n'ont pas été enlevés par l'érosion naturelle. Ils existent. Et plus on s'avance vers l'est, plus l'épaisseur de ces dépôts va augmenter. Et je pense que Pline, lorsqu'il a visité le site de la Smedoulas, c'est à ce moment-là, c'est le moment où il y a des dépôts déjà de 50, 60, 80 mètres stériles, qu'il a vu le site. Alors là, je crois que il y a cet abattage par sous-cavage, mais il y en a une partie qui doit être emportée immédiatement par la lave torrentielle, par ce phénomène-là, je crois. Puisqu'il dit qu'il faut placer les bassins à la crête des montagnes, vous vous rappelez le commentaire que j'ai fait sur les datifs de direction, il faut les placer là pour avoir une pente forte. Or, la pente forte, c'est pour que l'eau ait de la force.
Oui, mais dans le phénomène de lave torrentielle, l'eau joue un rôle tout à fait mineur, puisqu'il y en a très peu, justement. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'économie est maximale. C'est un matériau qu'on sature, et puis il faut que les conditions du matériau, elles sont réunies par sa nature même, ça c'est une première chose, et que les pentes, il y a le problème de mise en mouvement. Alors, pour la mise en mouvement, effectivement, ils peuvent utiliser l'eau pour déclencher le glissement en mettant en pression.
Comment tu le fais, là ?
La mise en mouvement, c'est tout simplement l'art et la manière de détruire un barrage en terre, de le mettre en pression. Et puis, à partir du moment où ça se met en mouvement, si les conditions de pente sont réalisées, on n'a pas besoin de rajouter de l'eau, et ça part tout seul, et puis ça va au maximum. Et c'est probablement dans le traitement de ces petits barrages au départ, que les Romains y ont trouvé le secret des laves torrentielles. D'accord. Petit à petit, c'est...
Donc l'usage de la lave torrentielle serait lié en quelque sorte à l'utilisation de l'eau comme force de pression.
Absolument.
Donc circulation de l'eau dans les galeries, dans les Absolument. Puits, c'est-à-dire ce que ne dit pas Pline, mais ce que nous constatons lorsque nous visitons le site.
Absolument.
D'accord. Alors, à l'époque de Pline, je pense quand même qu'il fallait qu'il fasse partir les zones stériles, les paquets
oui,
stériles.
Non,
alors comment ils faisaient à ce moment-là?
Ben, le Xing Bumim, ils fabriquaient, ils avaient...
Ah, voilà, d'accord.
Ils avaient leurs petits barrages qui s'accumulaient, et puis ils s'arrangeaient pour les faire partir régulièrement ou irrégulièrement.
D'accord. Donc là, il leur fallait un peu plus d'eau.
Il leur fallait un peu plus d'eau.
D'accord.
Ils en faisaient moins. Ils en avaient beaucoup moins besoin que ce qui était nécessaire pour laver, mais ils en avaient besoin encore un peu plus.
D'accord.
Puis la lave torrentielle, c'est vraiment le minimum. Il n'y en a pas. Enfin, tu vois, le phénomène de lave torrentielle, c'est un phénomène fascinant, comme me rappelait récemment un grand spécialiste de ça, parce que tu sais très bien que j'ai fait lire tout ça par toute l'équipe d'École des Mines. Quand vous avez un phénomène de lave torrentielle qui se déclenche, vous avez donc ce que vous n'avez pas vu, mais je m'en excuse, le petit film, on a l'impression que c'est complètement liquide, et dès que ça s'arrête parce qu'il n'y a plus de pente suffisante et que ça se dépose, on peut marcher dessus dans les 30 secondes qui suivent. C'est pas du tout de la boue, c'est pas de la vase, c'est pas un matériau boueux dans lequel on enfonce le pied, on marche dessus directement. C'est-à-dire que le matériau est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, est juste saturé, mais sans plus. C'est absolument fascinant comme phénomène.
Lorsque on voit le fameux schéma avec les divers aqueducs, on s'en rend bien compte que l'aqueduc C3, c'est probablement celui que décrit Pline.
C'est de l'époque de Pline, on a dû lui dire.
Oui. Ça veut dire qu'à cette époque-là, on a fait déjà de très grands travaux pour amener de grandes quantités d'eau. Donc ça permet de fixer l'endroit où était l'exploitation à ce moment-là.
Pas sûr, non. Pas exactement. Parce qu'on a pu stocker, et il y a effectivement un endroit, il y a les restes d'un énorme bassin, c'est à 1000 mètres d'altitude à peu près. Le bas du cirque est à 900. Il y a un très grand bassin d'où sont partis, on en voit les traces, ce que Pline appelle des émissarias, c'est-à-dire des ouvertures. Il y avait des ouvertures et des canaux qui conduisaient l'eau à l'endroit où on en avait besoin. Donc, il n'est pas sûr que ce canal soit de la fin de l'exploitation. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non.
Je vais ajouter tout de suite un élément. Il me semble, comme l'aspect extrêmement efficace des Romains est bien connu, enfin si je vous en crois, qu'ils aient pris leurs précautions et qu'ils soient arrivés à un point plus haut que c'était nécessaire. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait. Arriver 50 mètres au-dessus du point d'exploitation nécessaire pour avoir ce qu'il faut. De même que j'avais vérifié que les quantités d'eau, compte tenu des bassins versants, qui correspondait aux prises des différents canaux, permettait d'avoir l'eau qui était nécessaire, en particulier pour les conditions de lavage, compte tenu d'une production annuelle de, etc. Enfin, j'avais fait des calculs grossiers, mais suffisamment, exacts pour étayer la thèse, enfin, montrer une fois de plus la parfaite adéquation entre le système d'alimentation et la nécessité qu'il en était.
Ça a éclairé ta lanterne ?
Oui, non, on comprend mieux, effectivement. Et alors, je voudrais revenir un peu sur ta conclusion quand tu dis que donc, tout ça pour 5 tonnes d'or. Comment on obtient ce chiffre? C'est simplement un calcul de la masse, des teneurs
et de la masse supposée enlevée, qui quand même repose sur des évaluations solides. 90 millions de mètres cubes, je crois.
Une remarque, une fois de plus, où la technique est venue au service de l'archéologie. La masse de 90 millions de mètres cubes a été mesurée par système de résidence électrique. Enfin, c'est du travail extrêmement sérieux. C'est une enquête extrêmement minutieuse. Donc, c'est 90 millions, enfin, à 10% près.
Mais tu sais, enfin, l'hypothèse, c'est que l'or est stocké dans les niveaux inférieurs. C'est là qu'il y a le plus d'or. Donc, en tenant compte de cette teneur, de la masse qui a été remuée, on arrive à... Bon, je ne sais pas où est mon micro. Hein. Je l'ai caché sous ma veste. Donc, évidemment, il ne peut pas l'entendre. Là, on entend, là ? Non, pas plus. Si, vous entendez. Oui, je ne me rappelle plus ce que j'étais en train de dire.
À propos de la masse des...
C'est à partir de toutes les observations, de toutes les études et les analyses qui ont été faites. Et de la masse donc, qui a été exploitée à la Smedoulas, et compte tenu de l'épaisseur des niveaux riches, et des niveaux riches de leur teneur. Donc on arrive à cette... Moi, ce n'est pas moi qui l'ai fait le calcul, hein, sont les géologues.
Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans les parties qui ont été justement exploitées, la teneur en or ait été plus élevée et qu'il se soit arrêté, que l'exploitation justement s'arrête parce qu'on se rend compte que la teneur baisse et à ce moment-là, c'est plus rentable. Sinon, quelle autre explication alternative donnerais-tu à la fin de l'exploitation ?
Alors, la fin de l'exploitation, les tenants de l'hypothèse classique disent qu'il y a eu des failles post-dépôt, post-miocène, et qui ont... qui ont fait basculer certaines parties de la masse alluviale. Il y en a qui se sont enfoncés, il y en a d'autres qui sont remontés. Ceux qui se sont enfoncés, les niveaux aurifères seraient beaucoup plus bas, donc ils auraient arrêté de les chercher. Et ce qui montre que c'est à cause des difficultés d'exploiter ces niveaux profonds que ça a été abandonné, c'est que sur le flanc, du ruisseau Cabrera, qui est au sud, là où la plupart des captages d'eau ont été faits, a été exploité un gisement aurifère souterrain, dont l'exploitation a tranché tous les aqueducs qui transportaient de l'eau à la Smedoulas. Ça veut dire que, à partir du moment où cette exploitation s'est développée vers le haut, même les aqueducs les plus élevés, du niveau le plus élevé, n'ont plus alimenté la Smedoulas. Ça a été terminé. Ils ont abandonné la Smedoulas, où il y avait des dépôts alluviaux pauvres en or, pour un gisement qui était un gisement filonien. Sans doute, les gisements filoniens primaires sont toujours plus riches en or que les dépôts alluviaux. L'avantage des dépôts alluviaux, c'est que l'or est libre, et plus facile à exploiter à condition qu'on ait de l'eau. Mais dans les gisements primaires, il y a beaucoup plus d'or. Ils ont exploité ce gisement. Donc il y a eu un passage sur le site de l'exploitation des alluvions aurifères à l'exploitation d'un gisement en roche. Donc je pense que c'est lié.
Donc c'est bien le signe qu'il arrive un moment où effectivement c'est plus rentable.
Ouais.
Mais est-ce que, si on retourne à l'hypothèse, est-ce qu'il n'y avait pas justement une partie du gisement au début qui était beaucoup plus riche en or, qui aurait expliqué justement cet investissement considérable?
Les géologues ne le pensent pas. Les géologues pensent que...
Mais comment on peut ne pas le penser alors que c'est justement ces sédiments ont déjà été enlevés?
Parce qu'il en reste quand même.
Il y a un autre facteur qui est à prendre en compte, c'est que l'aspect extraordinaire de ce site, qui est en même temps sa faiblesse, c'est son système d'alimentation en eau qui est absolument extraordinaire. Et Pline, je crois, parle de l'entretien de ce système, et l'entretien de ce système représentait une dépense et puis une organisation de l'espace absolument considérable. Et on peut se demander si à un moment ça n'a pas été trop lourd à porter compte tenu du bénéfice espéré à l'autre bout du système de canaux, parce que il y a 500 km au total.
Oh, à peu près, oui, 500 km de canaux.
À entretenir avec tous les risques, il y avait toutes les ruptures, les glissements, donc c'était absolument une charge considérable. Je ne sais pas si ce n'est pas un facteur qu'il faut prendre en compte.
Je peux ajouter quelque chose, c'est que tu dis au début de l'exploitation, est-ce que ce n'était pas plus riche ? C'était en tout cas plus facile à exploiter, puisque on était sur ces niveaux-là, puisque la couverture stérile avait été enlevée par l'érosion au cours des temps géologiques. Donc, ça a pu produire davantage d'or. Mais au fur et à mesure qu'on va vers les dépôts, bon, ça... Voilà, moi, je peux pas te dire plus que...
Oui, mais quand même, au total, effectivement, ta conclusion est dévastatrice.
Mais je ne peux pas... Je ne peux pas le passer sous silence, parce que ça pose effectivement un problème. Vous rendez compte, des travaux gigantesques, des travaux de géants, qui dépassent les travaux de géants, pour... Qu'est-ce que c'est à peine 5 tonnes d'or C'est un parallélépipède d'un mètre carré et sur 200 ans, un parallélépipède qui est haut comme ça, hein, pas plus. Ça fait 4900 et quelques kilos d'or. Donc oui, tant de, c'est la formule de Pline. Tant de travaux pour si peu de résultats. Alors tu me disais tout à l'heure, oui, mais enfin, l'or, c'est effectivement, l'or, l'État n'avait, sont des mines d'État, hein, sont des mines qui appartiennent à l'État. L'État en avait besoin pour ses monnaies d'or, les aureis, les augus, etc. Oui, là, on peut faire un exposé d'histoire économique et financière en même temps, mais je n'en suis pas capable.
Et justement, qu'est-ce qui se passe après? Parce que donc on cesse l'exploitation de la Zénie d'Oulas. D'où vient l'or au IVe siècle? Les mines d'Égypte, par exemple, l'expérience que j'en ai montre qu'elles ne sont pas exploitées avant le 5e. Donc, c'est-à-dire avant la partition de l'Empire, en pratique. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même d'autres mines qui prennent le relais.
Il y a de l'or qui prend le relais.
C'est plus la dacite.
C'est au IVe siècle, on a des textes juridiques qui concernent beaucoup plus la partie orientale de l'Empire que la partie occidentale. Au IIe siècle, il y a eu l'apport des mines de Dacie, d'abord du trésor des rois d'Ace, et puis de l'exploitation qui est patente, comme on le sait aujourd'hui, après les travaux de Béatrice Coré. Après, je ne sais pas, il y a aussi le commerce des trésors, je ne sais pas, moi.
Oui, parce qu'il y a... Bon, là, il y a
effectivement... On peut dire que les mines d'Espagne, ça a été l'Eldorado dans tous les métaux, le plomb, le cuivre, l'argent... la grande zone minière de l'Empire pendant les deux premiers siècles. Et puis, ça décroît. Hein, les grandes périodes d'exploitation, par exemple, des mines d'argent de Sierra Morena, c'est premier siècle avant Jésus-Christ, premier siècle après. Carthagène aussi, premier siècle avant Jésus-Christ. Et puis après, il faut que d'autres mines prennent le relais. Bon, il y a la Germanie pour l'argent, il y a la Bretagne aussi pour le plomb, l'argent. Et puis, vers l'Est, il y a les pays, les Balkans, mais là, moi, je connais mal, parce que je n'ai pas pu y aller, et je connais mal ce qui se passe. Et pour l'or, je ne veux pas te répondre.
Et puisque tu as abordé la question de l'argent, est-ce que ce type de technique qui utilise l'énergie hydraulique a-t-elle été utilisée pour les mines d'argent?
Non, pas du tout.
Et pourquoi?
Parce que ce n'est pas le même type de gisement.
Oui, parce que là, on n'a pas...
L'argent alluvial, ce n'est pas connu. Ça doit exister, on doit en trouver dans les rivières, mais c'est surtout de la galène qu'on trouvait dans les ruisseaux qui traversaient les sites. Mais l'exploitation des gisements primaires pour la galène est suffisante. Tu as une galène qui est, je ne sais pas moi, à 500 grammes d'argent ou à 1000 grammes d'argent à la tonne, ça suffit largement aux Romains et à Carthagène et dans la Sierra Morena pour fournir d'argent. L'étain, ça aurait pu servir, mais je n'en ai pas de trace. Mais ça aurait pu servir, effectivement. Il se trouve qu'en Espagne, il y a des gisements d'étain en roche, des gisements primaires qui sont connus, qui ont été exploités, quelques-uns, par les Romains. Mais il est vraisemblable qu'ils ont exploité les gisements alluviaux, comme ça a été exploité à l'époque moderne. Mais il se trouve que tous les gisements alluviaux d'Espagne, pendant la Première Guerre mondiale, ont été exploités pour le wolfram. Le wolfram, un minéral qui intéressait beaucoup les industriels à cette époque, début du XXe siècle, et c'était les mêmes gisements que l'étain. Les Romains, dans les gisements alluviaux, avaient négligé le wolfram, donc les travaux d'exploitation avec des dragues, etc., ont été développés sur ces sites déjà exploités par les Romains. Donc c'est possible... Mais on n'a pas la preuve, ni la preuve...
Ils ont été détruits à ce moment-là.
Détruits, oui, ils sont bouleversés. J'ai trouvé quelques traces de présence romaine sur certains sites alluviaux, dans le nord du Portugal, dans le nord-ouest de l'Espagne, mais il n'y a pas de traces de chantier, si tu veux.
Et s'il y avait eu des traces d'aqueduc, ils auraient été totalement détruits aussi.
Tu as raison, là, oui. Non.
Donc on peut pas imaginer que l'étain...
L'étain était exploité comme ça.
Tout simplement parce que c'était probablement pas rentable. Développer des techniques aussi...
Lourdes,
supposées, effectivement. Il n'y avait que l'or qui pouvait supporter.
L'or, oui, c'est ça, qui pouvait supporter tant de travaux pour si peu d'or.
Eh bien, ça pourrait être le mot de la fin, de toute façon. C'est midi, il n'y a que l'or qui peut supporter et financer de tels travaux. Et donc, je remercie à nouveau Jean-Louis Borde et Claude Domergue de nous avoir fait cette si brillante présentation. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un sujet qui sera sensiblement différent, puisque nous traiterons de la production et des commerces du parfum dans l'Antiquité, qui est un autre de mes dadas.